Échange de regards intense entre un peintre et une scientifique, la scène se passe au musée du Louvre. Une chercheuse américaine vient de tomber nez à nez avec un Rembrandt, enfin son autoportrait. La scientifique hésite un instant, serait-ce possible? Et personne ne s'en serait aperçu jusque-là. Tout excitée, notre américaine décide d'en avoir le cœur net. Et après une étude minutieuse d'autres portraits de l'artiste, la scientifique, formelle, conclut « Rembrandt souffrait de strabisme ». Et alors? Eh ben c'est tout. Enfin, c'est tout pour la découverte, mais les interprétations peuvent commencer. Avec cette coquetterie dans l'œil, le peintre devait avoir du mal à percevoir le relief et à voir en profondeur. Et cette vision, façon carte postale, aurait participé à son génie en l'aidant à reproduire la réalité 3D sur une toile en deux dimensions. Mouais, un peu louche cette histoire de strabisme génial, mais il faut admettre que Rembrandt partage ce défaut de vision avec d'autres peintres célèbres, parmi eux Marc Chagall ou encore Pablo Picasso. Enfin, pour ces deux-là, s'ils peignaient les choses telles qu'ils les voyaient, le problème ophtalmique ne devait pas se limiter à un simple strabisme. Mais après tout, analyser une aventure esthétique à travers le prisme de troubles oculaires est peut-être une piste à creuser. Les fameuses montres molles de Salvador Dali ne seraient-elles pas le fruit d'un astigmatisme carabiné? Et en poésie, ça marcherait tout aussi bien. Si Paul Éluard voyait la terre bleue comme une orange, c'est sûrement qu'il souffrait de daltonisme au dernier degré. Bon, d'accord, je grossis un peu le trait. Peut-être suis-je à mon tour victime d'un trouble de la vision. Si bien que lorsqu'une scientifique américaine, d'après un passage au Louvre, me montre la lune, l'imbécile que je suis regarde le doigt. De si près que ça le fait loucher. Mais apparemment, ça ne suffit pas toujours pour avoir du génie. Bonsoir et bienvenue dans le plein des sciences, l'émission scientifique de Radio Campus Paris 93.9 tous les mercredis de 20h à 21h. Si vous nous écoutez à Clermont-Ferrand, c'est le samedi, mais c'est le même prix. Ce soir, on parle de comètes dans le plein des sciences. J'ai pas dit astéroïdes, ni météorites, ni étoiles filantes. Mais alors, quelle est la différence au juste? De quoi sont faites les comètes? D'où viennent-elles? Est-il possible que nous en prenions un de ces jours sur la tête? Certains disent que c'est une comète qui a amené la vie sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'en est-il vraiment? Pour en savoir plus, nous avons invité Hervé Cottin. Il est maître de conférences à Paris 12. Il travaille au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Bonsoir Hervé Cottin.
Bonsoir.
J'ai bien dit, c'est ça, hein, le
laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques.
Voilà, vous le faites beaucoup mieux que moi. Et vous êtes, alors c'est hyper exotique, hyper beau, vous êtes astrochimiste, exobiologiste.
Oui, je suis chimiste à la base, mais comme je m'intéresse à la chimie des comètes, je suis astrochimiste, et comme aussi je m'intéresse aux effets qui ont pu permettre l'apparition de la vie sur la Terre, donc je m'intéresse à l'exobiologie aussi.
D'accord. Bah, c'est des jolis titres en tout cas, hein. Sur une carte de visite, ça pète bien. Alors je vous présente l'ensemble des chroniqueurs qui vont faire ce plein avec nous ce soir. Nous avons donc deux Laetitia. Ah, ça, c'est toujours la fête quand on a deux Laetitia. Bonsoir.
Bonsoir.
En cœur. Alors une Laetitia pour la fin de l'émission. Une Laetitia qui a un point commun avec les comètes, ça ne vous a pas échappé.
Ah bon, c'est clair.
Sa chevelure.
Une chevelure absolument resplendissante, on ne voit que ça, comme pour les comètes. Et puis une autre Laetitia qui nous fera une revue de presse.
Mais qui a aussi une très belle chevelure.
Qui a une très belle chevelure, bah oui.
Également.
Et une revue de presse,
voilà.
De quoi on va parler?
De dinosaures, par exemple.
La disparition des dinosaures, c'est vrai qu'on en parle. Ouais. Eh oui. Et en fin d'émission, ce sera la Laetitia à la chevelure de comète qui interviendra.
Ouais, un autre point commun aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu loin de la Terre, c'est pour ça.
Dans la chronique ou de façon générale?
Dans la chronique aussi, peut-être.
La chronique, d'accord. On a aussi Jérémy qui nous fait son grand retour culture
bonsoir.
Et science.
Bonsoir. Ah, grand retour. J'étais là la semaine dernière.
Ah, bon, je crois que je t'avais dit.
Oui, moi je parlerai principalement de films de comètes.
De films de comètes.
Voilà.
Par exemple.
En tout cas, c'est souvent des mauvais films, donc grâce à vous, j'ai passé deux jours excellents devant ma télé à voir des très mauvais films. Merci.
Merci, Hervé Cottin. Ça commence bien.
Difficile.
Il y a un film avec des comètes dont vous êtes fan, Hervé Cottin? Ah, la colle d'emblée.
Il n'y en a quand même pas
beaucoup.
Il y en a pas
eu énormément. J'ai vu Deep Impact, je pense qu'on en reparlera plus tard. Je ne suis pas fan spécialement, mais il y a des choses assez intéressantes dans ce film.
Ah oui, il y a des trucs vrais?
Oui.
Ouais. D'accord. Et puis la dernière chroniqueuse de ce soir, c'est Séverine, qui chronique pas vraiment,
mais, non,
mais
qui. Pas chroniqueuse, là, ce soir.
Mais non, mais je suis là complètement.
Par hasard.
Par hasard. Enfin, ça, j'ai vu de la lumière. Laissez-moi tranquille. Non, mais c'est un peu la spécialiste espace. Ah. Bon, elle sait tout sur les comètes et elle va nous le prouver une fois.
J'ai une encyclopédie des comètes.
Dans le ventre.
Dans le ventre.
Et ça fait mal. Très bien. Alors.
Il faut que ça sorte.
La première question, je la disais en introduction, c'est vrai qu'entre astéroïdes, météorites et comètes, pour les non-spécialistes, des fois on se paume un peu, c'est quoi une comète?
pour simplifier, on peut dire qu'une comète, c'est joli.
En fait, ça, c'est complètement subjectif.
Tous ces corps-là, astéroïdes, météorites, comètes, ce qu'on appelle, on les met dans le paquet petits corps du système solaire, parce qu'en plus de toutes les planètes, on s'est rendu compte au fil des années que le système solaire est peuplé d'un tas d'objets de beaucoup plus petite taille. Et la particularité des comètes, ce sont des petits corps qui, à l'approche du Soleil, vont développer une activité. Donc beaucoup de petites molécules à la surface et à l'intérieur des comètes qui, quand elles sont chauffées, vont passer directement de la phase solide à la phase gazeuse. Et c'est ce qui va donner l'atmosphère de la comète et la chevelure de la comète. Et c'est ça qui est joli à regarder depuis la Terre.
Et Laetitia, dès qu'on parle de chevelure, elle a un sourire hyper ravi. Pour être peut-être trop simpliste, est-ce qu'on peut dire qu'une comète, c'est une grosse boule de neige sale?
Exactement ça.
On peut le dire, ça.
C'est un astronome américain qui est mort récemment, qui s'appelle le Whipple, qui a, au début des années 50, qui a commencé à comprendre la composition des comètes. Et justement, la définition qu'il en a donnée, c'est dirty snowballs, des boules de neige sales. Donc un mélange de glace et de poussière. Suivant les comètes, il y a plus ou moins de glace, plus ou moins de poussière, mais c'est une manière de simplifier les choses, en effet.
Alors que les météorites, il n'y a pas forcément d'eau.
Des gros cailloux.
C'est des gros cailloux, ben voilà. On comprend mieux. Et il n'y a pas d'atmosphère autour de ces gros cailloux, alors que l'évaporation, c'est de la sublimation, parce qu'on passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Une atmosphère autour de la comète.
Mais après, si on veut un peu moins simplifier, on se rend compte que ce ne sont pas des choses qui sont clairement séparées, des familles clairement séparées. On pense de plus en plus que certains astéroïdes sont en fait des comètes éteintes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de différents passages près du Soleil, les comètes ont perdu leur matière volatile et au final, il reste un gros caillou. Donc, ce qu'on voit, c'est un astéroïde.
Qu'est-ce que c'est une comète?
Eh bien, mon chéri, c'est une sorte de boule.
C'est une larme de Dieu qui tombe sur la Terre.
Une comète, c'est de la matière, notamment du roc et de la glace. Une matière sans âme, qui va faire du mal à ton papa, à ta maman et à ceux que tu aimes.
C'est vrai.
Monsieur Wade, je trouve votre...
Vous pensez faire durer ce conte de fées longtemps. Votre petit monde va souffrir.
Si la cigarette est mal éteinte, est-ce la faute du cendrier? Fait-on partie d'une espèce éteinte, d'une espèce inadaptée? Quand la quarantaine est atteinte, faut-il crier au feu les pompiers? Nous ne serons plus jamais enceintes, est-ce une chance pour l'humanité? On commence à déposer des plaintes et vouloir se justifier. On est débordé par les contraintes. Est-ce le prix de la maturité? En quarantaine bien sonnée, on a désolé l'âge du capitaine, de ses ardeurs, de ses amours, de ses regrets. Est-ce que tu crois qu'on enchaîne? C'est quel break faut-il danser? Se retrouve-t-on à la traîne? Faisons-nous partie des échappés, on se retrouve quand même à la peine quand arrive le gueule du temps malheur. On vérifie si la bedaine et si les cœurs sont bien accrochés, quand trop lourde est la laine, qu'il faut-il consulter? Je ne veux pas te faire de peine, mais faut savoir un jour accrocher. En quarantaine bien sonnée, on a désolé l'âge du capitaine, et de ses ardeurs, et de ses honneurs, de ses regrets. En quarantaine bien sonnée, on a désolé l'âge du capitaine, et de ses ardeurs, et de ses honneurs, de ses regrets.
Vous êtes dans le plein des sciences sur Radio Campus Paris 89.9 et puis on met des... C'est quoi? C'est un jingle ça ou c'est de la musique? Sabotage! Voilà, nous sommes en train de parler de comètes avec notre invité Hervé Cottin. Vous nous disiez, c'est de la glace, on pourrait dire que ça ressemble à une boule de neige.
elle passe régulièrement près du Soleil, donc à chaque fois qu'elle passe près du Soleil, cette comète, elle devrait fondre un petit peu. Et depuis le temps qu'elle passe et qu'elle tourne, comment ça se fait qu'il y a toujours des comètes ?
Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, ça va fondre très lentement. Un noyau cométaire, c'est plusieurs kilomètres. Il y a des comètes qui font quelques centaines de mètres. La comète Elbop qu'on a vue en 1997, même au plein milieu de Paris, on pouvait lever les yeux, on la voyait. Elle fait 40 kilomètres de diamètre à peu près. Et à chaque passage, on peut estimer, grosso modo, qu'une comète va perdre quelques mètres d'épaisseur. Donc elle va fondre, certes, mais ça va être très long à fondre. Donc d'une part, une comète, à partir du moment où elle va rentrer dans le système solaire, il va falloir beaucoup de passages pour qu'elle disparaisse complètement. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, les comètes viennent de deux réservoirs qui sont aux confins du système solaire. Le premier réservoir, c'est la ceinture de Kuiper. Il est au-delà de l'orbite de Neptune. Donc c'est tout un tas de petits ou gros objets glacés. On pense même que Pluton, en fait, considéré comme une planète, c'est rien d'autre qu'un gros objets de la ceinture de Kuiper, donc peut-être même une comète énorme. Donc tous ces petits objets sont stockés au fin fond du système solaire. Ils restent là depuis la formation du système solaire et ils n'ont pas bougé. Deuxième réservoir, le nuage d'Oort, encore plus loin. On n'a encore jamais détecté d'objets du nuage d'Oort. Par contre, les calculs théoriques laissent penser que tout autour du système solaire, il y aurait un autre réservoir de ces gros objets ou petits objets qui ont été éjectés peu après la formation du système solaire, conservés très loin, et un peu mis au congélateur. Les comètes, c'est à ça qui est intéressant, ce sont ces boules de neige sales. En fait, c'est des échantillons de la matière qui a servi à former les planètes, qui a servi à former le système solaire, qui n'auraient pas été incorporés aux planètes et qu'on aurait stocké au frigo, même au congélateur. Donc, ça ne bouge pas.
Ça ne bouge pas et ça veut dire que ça
tourne.
Maintenant,
ça évolue pas.
Il s'en forme plus. On a stocké une bonne fois pour toutes. Régulièrement, il y en a 2-3 qui sont éjectés.
Voilà, c'est ça. Pourquoi de temps en temps,
comme ça.
Collision. Une collision, ça peut perturber la trajectoire d'une comète qui est dans la ceinture de Kuiper au nuage d'Oort et la projeter vers le système solaire. On pense aussi parfois que le passage d'étoiles lointaines peut perturber l'environnement gravitationnel dans ce nuage et précipiter des comètes vers le Soleil. Et à partir du moment où les comètes sont éjectées de leur réservoir, bah c'est à partir de là qu'on va pouvoir les détecter, les observer et vont pouvoir justement développer une activité à l'approche du Soleil.
D'accord. Je vous propose maintenant d'écouter la revue de presse de notre première Laetitia, qui a lu la presse, les mensuels, la recherche et je ne sais quoi, et qui en a extrait la substantifique moelle. Vous pouvez réagir tout au long de la chronique, faire vos commentaires. Laetitia est habituée, elle fera face.
Je ferai face. Donc je commande donc à la une de la recherche ce mois-ci, donc du mois d'octobre, un dossier spécial intitulé « La fin des dinosaures, la querelle relancée ». Et la querelle, c'est météorite ou pas météorite. Donc depuis le début des années 90, en fait la thèse dominante c'était celle d'une météorite dont on avait retrouvé l'impact au Mexique. Donc c'est un impact de à peu près 150 km de diamètre. Et jusque-là, toutes les données, enfin un certain nombre de scientifiques en tout cas, considéraient que cette thèse était assez fiable. Bon, quelques-uns n'étaient pas d'accord, ils avaient du mal à se faire entendre. Et voilà du nouveau, puisque un nouveau forage géologique a été fait donc près du centre de ce cratère. Et il a permis de montrer que celui-ci donc se serait formé 300 000 ans avant la crise biologique, donc avant la disparition des dinosaures. Donc, ce qui voudrait dire que ce météorite ne serait pas du tout responsable de la disparition des dinosaures.
Mais 300 000 ans, attends, c'est-à-dire que le truc est tombé 300 000 ans avant que les dinosaures...
Avant que les dinosaures ne disparaissent.
Et ça ne peut pas être lié quand même ? Et ben, 300 000 ans, ça fait trop long ?
Ouais, donc visiblement, ça fait trop long. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, ça, c'est la théorie de Gerda Keller, qui, depuis le début, elle n'était pas d'accord. Hein. Ceci dit, elle n'exclut pas du tout l'hypothèse de la météorite, hein, mais en tout cas, elle pense que c'est pas celle-là. Et que peut-être, ça serait une météorite, et en tout cas, pour que ça ait provoqué une extinction aussi énorme, il faudrait que la météorite soit encore plus grosse, c'est-à-dire au moins 250 km de diamètre. Et jusque-là, on n'a pas trouvé de cratère. Voilà. Donc elle pense aussi que ça serait une association entre un volcanisme très très intense et plusieurs impacts peut-être qui auraient provoqué des conditions très difficiles.
Ah oui, c'est une ancienne théorie qui revient un peu en force parce qu'il y avait déjà cette théorie du volcanisme.
Voilà,
qui était un peu
voilà. Et comme là, en fait c'est les nouvelles données sur ce cratère, la datation qui ne correspond plus.
Et ils ne peuvent pas se planter. dans la datation.
Ah bah évidemment, ceux qui sont adeptes de la théorie du cratère disent qu'ils se sont plantés. Hein. Donc dans la recherche, on a bien un très joli dossier avec les pour, les contre.
Voilà. Ceux qui s'abstiennent.
Donc à nous de choisir après.
Vous avez un avis, Hervé Cottin, sur la question?
Je ne connais pas ces nouvelles données, mais effectivement, je sais que ces dernières années, la thèse d'un impact, donc astéroïde, je prêche un peu pour ma paroisse, ça peut être aussi une comète, est une thèse qui a beaucoup de données. Donc cette histoire de cratère d'impact qui a été retrouvée, et aussi on a identifié dans la couche géologique à la limite du Crétacé et du Tertiaire, donc environ 65 millions d'années, un enrichissement en iridium, donc un élément très lourd qui... Alors on dit qu'il n'existe pas sur la Terre. En fait, c'est pas exactement vrai. Un élément aussi lourd, après la formation de la Terre, il est arrivé au centre et actuellement, il n'y en a pas à la surface de la Terre. Donc, c'est extrêmement curieux d'avoir un tel enrichissement dans cette couche qu'on appelle la couche crétacée tertiaire. Et par contre, une météorite ou une comète n'a pas subi ce processus de différenciation qui fait que les éléments lourds plongent au milieu. Donc, sur une météorite ou sur une comète, il y a une abondance d'iridium... assez importante par rapport à la Terre. Donc c'est pour l'instant le seul moyen qu'on ait pour expliquer cet enrichissement justement à la limite de la couche crétacée tertiaire. Avant cet enrichissement en iridium, on a tous les fossiles qu'on veut qui correspondent à des dinosaures. Ensuite, on se rend compte qu'il y a dans ce qu'on appelle le registre fossile, il y a une vraie diminution de la diversité. Mais c'est pas tranché, il y a deux écoles, hein. Il y a les pour, il y a les contre. Et puis après, ça sera peut-être un mélange de tout ça au final.
Oui, 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 voilà. Bon alors, pendant que donc certains disparaissent, d'autres nous envahissent.
Quelle transition,
et donc, Science et Vie nous apprend qu'une super colonie de fourmis d'Argentine vient d'être découverte sous la ville de Melbourne en Australie. Ça serait une colonie de plus de 100 km de diamètre.
Oh la vache.
Et ouais.
C'est énorme.
Et donc, ces super fourmis, super colonies, le problème, c'est qu'elles éliminent toutes les fourmis locales et aussi tous les autres insectes. Donc,
c'est juste un problème pour les autres insectes?
C'est un vrai problème pour la biodiversité et c'est aussi un problème un petit peu pour les gens, puisqu'elles sont assez envahissantes. Hein.
Elles piquent?
Non, je crois pas. C'est des petites fourmis. Elles sont surtout agressives avec les autres espèces de fourmis, mais pas tellement avec les gens. Voilà. Alors le problème de ces fourmis, donc, c'est que en Argentine, donc, il n'y a pas ce problème puisque les populations de fourmis sont génétiquement diversifiées et donc elles s'auto-contrôlent en se combattant férocement puisque c'est des fourmis très agressives. Hein. Mais en Australie, il y a eu une seule souche qui arrivait avec sûrement un navire de marchandises et donc, toutes ces fourmis, elles collaborent et elles fondent des super colonies. Et moi, j'ai appris aussi qu'en France, il y avait une super grande colonie qui descend jusqu'en Espagne, jusqu'au Portugal, qui fait plus de 6000 km de long. Et c'est toutes des fourmis de la même souche. Voilà.
Mais quand on dit une hyper... Bah vas-y Laetitia, vas-y.
C'est ma question. Qu'est-ce que tu entends par une super colonie? Ça veut dire quoi? C'est que ça s'étale sur...
Ben, en fait, d'après ce que j'ai compris, une super colonie, en fait, c'est des fourmis qui appartiennent toutes globalement à la même souche génétique. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut donc différencier deux super colonies. C'est quand tu mets deux fourmis qui n'ont pas donc de deux super colonies différentes, et ben elles se battent. Alors que si tu en mets deux de la même super colonie, même si elles se connaissent pas parce qu'elles habitent à 200 km de différence, elles se battent pas. Non, elles se reconnaissent, je sais pas, chimiquement.
Ouais, t'es de ma super
donc
colonie,
c'est pour ça qu'elles sont très fortes, et parce que celles qui appartiennent à la même colonie s'entraînent.
Ouais, parce que voilà. Tout à l'heure, quand t'as dit 100 km, en fait, moi, un peu bêtement, j'imagine une sorte de fourmilière géante sous terre qui faisait 100 km, c'est pour ça que ça faisait très peur. En fait, c'est juste une super colonie.
En fait, ça fait pas très peur.
Attends.
Bon, alors sinon, je voulais vous parler aussi du magazine Cerveau et Psycho. On n'en parle pas très souvent, c'est un trimestriel, le trimestriel de la psychologie et des neurosciences. Voilà, et dedans, il y a un article d'un monsieur qui s'appelle Robert-Vincent Joule qui propose d'utiliser les recherches en psychologie sociale pour favoriser l'engagement citoyen. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc on sait tous qu'entre les bonnes paroles et les actes, eh bien il y a une différence. Effectivement, pour le don de sang, on trouve tous que c'est très bien d'aller donner son sang et c'est pas pour ça qu'on y va. On est aussi tous d'accord qu'il faut aller voter et pourtant, des fois, ça arrive, oh ben on est en vacances, on a oublié la procuration. Voilà. Et donc,
c'est la partie un peu engagement citoyen. La partie psychologie sociale, on peut peut-être en dire deux mots pour essayer...
Ben oui, je vais vous expliquer. Donc le problème d'après les psychologues, c'est la décision. entre le, ce qu'on pense qui est bien et ce qu'on fait. Le problème, c'est donc de décider qu'il faut le faire. Donc, il existe de nombreuses techniques psychologiques qui permettent d'amorcer les décisions et d'amener les gens à réaliser librement les comportements qu'on attend d'eux. Ça s'appelle la théorie de la soumission librement consentie. En gros, c'est de la manipulation, hein, autant le dire. Voilà, et une en particulier, eh ben, ça consiste à demander à la personne de faire d'abord un acte anodin qui lui coûte pas grand-chose pour préparer le terrain. Par exemple, j'imagine, ça vous est tous arrivé, on commence par vous demander l'heure dans la rue, et puis en fait, ah oui, mais alors j'appartiens à une troupe de théâtre, et voilà, faudrait subventionner... Ça, moi, ça m'est arrivé vraiment et ça a marché.
Et ça a marché, ouais.
Et statistiquement, ça marche.
Et alors, pour l'engagement citoyen, il voudrait quoi ? Nous demander l'heure, puis nous dire « Oh, faites une urne !» Comment ça se passerait exactement ?
Alors, mais ils ont fait des recherches, ils ont fait une expérience dans les dans les Alpes-Maritimes, où, à propos donc du comportement plutôt éco-citoyen, donc tout ce qui est protection de l'environnement, ils ont fait des tests sur dans des écoles sur 700 familles et ils ont sensibilisé toute l'année les enfants. Ils leur ont fait faire des petits gestes d'abord à l'école, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour économiser à l'énergie, et puis ensuite à la maison. Ensuite, ils ont fait des petits bulletins d'engagement. Il fallait qu'ils s'engagent, par exemple, à toujours éteindre la lumière en sortant de leur chambre, etc. Ils ont essayé d'intégrer les parents. Ça a duré un processus qui a duré toute l'année. Et à la fin de l'année, en gros, tous les parents ont signé une charte comme quoi ils s'engageaient à, par exemple, toujours arrêter la veille de leur télé. Enfin, des petites actions simples comme ça.
Et ça, donc, on a les résultats du test. Ça a marché, quoi.
Ouais, j'ai pas précisément, mais en tout cas, eux, ils disent que ça marche. Il faut passer par des actes comme ça, préparatoires, ils appellent ça. Et donc, ils incitent les politiques, et en tout cas les gens qui conçoivent des campagnes de communication, à ne pas négliger ces actes préparatoires. Voilà.
D'accord, très bien.
Il y a plein d'expériences décrites intéressantes.
Alors, dans le même neuro et psycho, moi, ce que j'ai appris, alors je m'en méfie un petit peu, mais soi-disant que Amadeus Mozart aurait été atteint du syndrome Gilles de la Tourette.
Et qu'en fait,
bon, comme c'était un génie, bon, bah, on lui a passé un peu son côté, j'arrive, je grimace et je hurle des insanités. Donc, bon, on disait, bon, c'est son génie qui s'exprime un petit peu, qui a des débordements. On a laissé passer ça. Mais c'est quand même un peu dur, un neurobiologiste qui fait ses conclusions à je sais pas combien d'années d'écart. Des récits où on dit Mozart arrivait, il tordait son visage comme une gargouille, machin, il hurlait des trucs. On s'est dit, tiens, ça ressemble à Gilles de la Tourette. Ça doit être un mec qui regarde beaucoup de la rue, peut-être. Parce qu'avec de la rue, on a l'impression que tout le monde, enfin, qu'on est la moitié en France à avoir ça. D'accord. Bah, très bien. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, vous nous disiez, ces comètes, elles sont stockées. Je reviens à vous, hein, Hervé Cottin, pour l'auditeur, parce que si on croit que c'est Laetitia tout d'un coup qui s'improvise spécialiste des comètes, Hervé Cottin, vous nous disiez, il y a des gros congélateurs aux confins du système solaire qui stockent des comètes en attente de partance, et puis tout d'un coup elles sont expulsées suite à des chocs, et puis elles se mettent à rentrer en orbite autour du Soleil. Mais il y a bien un moment où elles sont pas là indéfiniment, il y a bien un moment où elles disparaissent. Comment ça meurt une comète ?
Alors, il y a plusieurs manières pour une comète de mourir, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Elles peuvent perdre toute leur matière volatile et puis s'éteindre. Donc, elles restent en orbite et de loin, on a l'impression que c'est un astéroïde. Alors, à l'heure actuelle, il y a sans doute beaucoup d'astéroïdes qui sont des comètes éteintes. On observe aussi depuis quelques années, depuis qu'il y a un télescope qui est braqué sur le Soleil, on voit beaucoup de comètes qui finissent leur vie dans le Soleil. Tout simplement parce que le Soleil, c'est le plus grand pôle d'attraction du système solaire. Et suivant l'orbite des comètes, certaines ne vont pas faire un tour autour du Soleil, mais vont être projetées. Et là, on voit des panaches, des queues immenses de comètes qui sont complètement pulvérisées à l'approche du Soleil.
Ça, c'est une sorte d'explosion de comètes, c'est ça qu'on appelle, ou ça n'explose jamais une comète.
Elles peuvent se briser. Elles peuvent se briser. Il y a certaines comètes qui disparaissent parce que leur noyau, qui peut être très friable, on imagine une boule de neige sale, plus, si on la tasse plus ou moins, ça va être plus ou moins solide. Et donc il y a certaines comètes qui en orbite vont perdre des petits bouts de noyau plus ou moins grands et finir par être complètement perdu de cette manière.
D'accord.
Et si on se souvient, peut-être en 1994, on a observé pour la première fois l'impact d'une comète avec une planète, c'était avec Jupiter. Et donc on a observé la comète Schumacher-Levy-9. À l'approche de Jupiter, on a vu qu'elle s'est fragmentée en une espèce de collier de petits noyaux, de noyaux plus petits, qui sont venus rentrer dans l'atmosphère de Jupiter à quelques heures d'intervalle. Donc une comète, ça peut s'éteindre, ça peut s'écraser sur le Soleil ou s'écraser sur une planète.
D'accord, parce que je vous demandais, ça peut exploser, parce que Jérémy est venu tout content en me disant « j'ai trouvé le son d'une explosion de comète ». Je ne sais pas d'ailleurs, tu as trouvé ça où Jérémy, ce son?
Mais encore dans un film.
Ah oui, d'accord.
Non mais je suis pas, oui, non. Tu croyais que j'avais pris avec le mini-disque j'ai...
Je crois que c'était un truc de source scientifique, moi, je ne sais pas.
Ah
une
bon,
sonde
mon pauvre,
qui était partie,
mais c'est très scientifique.
Bah alors allons-y, écoutons.
C'est surtout à la fin, c'est le « qui fait comète.
Oui, de toute façon, en fait, je suis en train de réaliser dans l'espace, on n'entend pas le son puisque c'est dans le vide. Donc ça fait pas de bruit une comète qui explose.
Normalement.
Ok, Jérémy,
c'est
t'es viré.
De dans
Jérémy, dehors.
Toutes ces conneries qu'on raconte sur l'amour, toutes ces hornettes comme quoi ça fait du bien. Il paraît même que c'est le propre des humains. Il paraît que ça rend heureux, qu'on n'a rien trouvé de mieux. Et moi j'y crois, quand je te vois en face de moi, que ma tête me fuit tout bas. Embrasse-la, embrasse-la. Et moi j'y crois, embrasse-moi. Il paraît que l'amour, ça t'aide quand t'es triste. Il paraît même que ça rend complice. Il paraît que ça fait des trucs profonds qu'on efface pas d'un coup de torchon. Que ça va même jusqu'à la passion. Et des fois ça fait mal, mais y'a que ça qui compte. Il paraît que l'amour, ça change tous les jours. Que tu le crois mort et même il bande encore. Et moi j'y crois quand je te vois en face de moi. Que ma tête me crie tout bas. Embrasse-la, embrasse-la, et moi j'y crois, embrasse-moi. Mais j'ai vu un gars dans un bistrot, un peu tristounet et tout pas long, qui m'a dit qu'un cœur pouvait battre si fort, que d'un coup il s'arrache de son corps, et il te laisse là sur le bitume, rempli de vide et d'amertume. Avec l'amour, c'est un truc dangereux. Que ça va faire chialer tes jolis petits yeux. Il paraît même que ça fout la fièvre. Il paraît qu'il y en a certains, il y en a certains qu'on crève. Moi j'y prends quand je te vois. Parce que moi, que ma tête me fuit tout bas. Embrasse-la, embrasse-la. Et moi j'y crois. Embrasse-moi, et moi j'y crois.
Totalement exclu que cette comète suive une trajectoire qui pourrait l'amener à un contact direct avec la Terre. Le fait est que des roches et des météorites heurtent fréquemment la Terre, certaines de la taille d'une voiture, d'autres de la taille d'une main. Mais la comète que nous avons découverte est de la taille de New York, du nord de Central Park au sud de Manhattan, soit environ 11 kilomètres. Autrement dit, elle est plus grande que le mont Everest. Son poids est de 500 milliards de tonnes.
Les astronomes, les astrophysiciens, des géologues et des climatologues.
Où sont nos journalistes scientifiques?
Où sont nos journalistes scientifiques? Mais ils sont autour de la table du plein des sciences sur Radio Campus Paris. C'est un extrait de quoi ça, Jérémy?
Ça, c'est Deep Impact dont on a déjà parlé.
On a déjà parlé tout à l'heure. C'est un risque, c'est déjà arrivé qu'une comète Hervé Cottin s'écrase sur la Terre. C'est un réel risque. Qu'est-ce qui se passerait? Un peu ce que Laetitia nous a décrit tout à l'heure avec la disparition des dinosaures.
Tout dépend de la taille.
Si elle avait la taille, comme on nous disait dans l'exploit, de la ville de New York. C'est ça, hein, j'ai vu très bien.
On serait mal.
On serait mal, hein.
Oui.
Et on le saurait combien de temps à l'avance?
Pas assez.
Mes valises pour aller où? T'es marrante, toi.
Les comètes, à la limite, c'est le plus facile à repérer, puisque ça, à partir du moment où ça développe son activité, ça allume un petit gyrophare dans le ciel, et les astronomes amateurs, ou même maintenant il y a des observateurs automatiques, adorent repérer des comètes. Si on repère une nouvelle comète, on lui donne son nom, on devient célèbre. Donc, une comète, on risque de l'apercevoir assez rapidement. Par contre, une météorite, c'est sombre, il n'y a pas d'activité, donc ça peut, en dramatisant, ça peut être du jour au lendemain.
Bon. Et on aurait quoi comme solution si une comète arrive sur la Terre? Qu'est-ce qu'on fait?
Mais on court.
Non, je sais pas.
Daniel, j'ai un petit peu anxieux.
Non, mais je sais pas. On peut pas ne pas se poser la question quand on travaille sur les comètes. On a bien imaginé des solutions.
Les chances sont tellement faibles que on se pose pas tant de questions que ça. Après, effectivement, il y a de plus en plus de programmes d'observation, justement, qui tentent de repérer l'orbite de ce qu'on appelle les petits corps géocroiseurs, donc qui coupe l'orbite de la Terre, donc avec lesquels il y a potentiellement un risque d'impact, mais pour l'instant on n'a jamais découvert d'objets qui pourraient impacter la Terre suffisamment violemment. Alors après, faut regarder Deep Impact, Armageddon, les films.
C'est la solution. Si il y avait un problème, regardez Deep Impact, ça vous détendra. Ça détraumatise.
S'il y avait un vrai risque d'impact, je pense qu'il y aurait une mobilisation à l'échelle planétaire et on enverrait des fusées, des bombes pour essayer de, peut-être pas de les faire exploser, mais en tout cas les faire dévier suffisamment de leur trajectoire. Mais à mon avis, c'est plus des programmes peut-être militaires que scientifiques pour l'instant.
D'accord. Laetitia ?
Alors moi j'avais une petite question, en fait c'est pour en revenir à ce que vous avez dit au début sur les comètes, à savoir que ce sont une sorte de... Elles n'ont pas bougé depuis leur formation, comparativement aux planètes.
Il faudrait par contre que tu bouges un petit peu pour être bien informé.
Pardon, voilà. Et donc je voulais savoir dans quelle mesure on peut en savoir plus sur la géologie ou sur la géochimie des planètes et comment on peut faire pour l'étudier à partir des comètes.
Alors oui, quand je dis qu'elles n'ont pas bougé, c'est elles tournent, elles sont même dans la ceinture de Kuiper ou le nuage d'Oort, elles sont en orbite autour du Soleil, mais elles n'ont pas bougé au sens de leur composition.
Oui, c'est ça.
Donc effectivement, c'est comment savoir leur composition? Jusqu'à présent, on observe leur composition au travers de leur atmosphère. C'est-à-dire qu'on a uniquement des indications concernant la composition de la phase gazeuse. Donc par des moyens de spectroscopie au sein d'observatoires, on observe l'atmosphère cométaire et on peut déterminer que principalement c'est de l'eau dans l'atmosphère, mais aussi un tas de petites molécules comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le méthane. Enfin, vous prenez n'importe quelle petite molécule organique, vous allez la trouver quasiment certainement dans l'atmosphère cométaire. Donc on peut faire une hypothèse simple de se dire, ce qui est dans l'atmosphère, on va recondenser ça sur le noyau et c'est la composition du noyau. Alors bien sûr, cette extrapolation, elle est pas fiable à 100%, d'autant plus que justement, ce qu'on va observer, ce sont les petites molécules, et on pense qu'il y a des molécules beaucoup plus complexes dans leur structure et beaucoup plus intéressantes même pour, si on essaye de réfléchir à l'apparition de la vie sur la Terre et peut-être même le fait qu'elle ait pu apparaître ailleurs que sur la Terre, et ça, on n'y a pas accès. Et le seul moyen d'y avoir accès, c'est de se poser sur une comète. Et c'est l'objet d'une mission qui est partie, c'est une mission européenne, 100% Agence Spatiale Européenne, qui est partie en 2004, au mois de mars, et s'appelle Rosetta. Elle s'appelle Rosetta pour en hommage en fait à la pierre de Rosette qui a permis à Champollion de décrypter les hiéroglyphes. Et on pense que les comètes justement vont nous permettre de décrypter les mécanismes de formation du système solaire et peut-être même les mécanismes d'apparition de la vie sur la Terre. Et donc, par contre, il va falloir être patient puisque l'objectif c'est d'aller rejoindre une comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko. Elle n'est pas très connue, mais en 2014, justement, ce sera l'arrivée de la sonde Rosetta. Cette comète sera extrêmement célèbre et il y aura un module qui va se poser sur le noyau. Et là, ce sera la première fois qu'on aura accès à la composition du noyau. Donc, il y a un tas d'instruments, d'analyses chimiques.
On va revenir un peu plus tard dans l'émission sur les différentes missions avec Séverine, notre spécialiste. Ça met la pression.
Ça, c'est un petit peu mentir sur...
ça fait tomber de la chaise tellement.
Oui. C'est pas vrai, je suis pas du tout. Non, mais
elle est bourrée, c'est ça. Non, elle vient à l'émission complètement torchée. Non, ça, c'est un vrai problème. C'est ça, on en reparle. Alors, on va passer à la chronique de Jérémy.
Je vais partir.
La chronique de Jérémy. Science et cinéma et...
sent la merde, c'est dégoûtant.
Nadine, la science, c'est parfois de la merde. C'est notre pain quotidien, ma petite.
Rassurez-moi, ça va être le jingle pour chaque, chronique de Jérémy ou c'est un test, ça?
Notre réalisateur l'aime beaucoup. On l'a écouté 70 fois hier soir et puis finalement on vous le passe aujourd'hui.
Bah, peut-être qu'au bout de la 70e fois, on appréciera autant que vous. Voilà.
Mais je vous ai dit que j'ai subi des très mauvais films pendant deux jours et du coup j'en fais un peu profiter tout le monde avec ces merveilleux extraits. Alors moi, de ce que j'ai retenu de ces films, c'est qu'il y a deux types de comètes. Moi, il y a les gentilles et les méchantes. C'est pas tout à fait comme vous le parliez tout à l'heure, mais les gentilles, c'est celles qui amènent la vie sur Terre. C'est la théorie notamment que on développe à la fin de Mission to Mars avec c'est les Martiens qui ont ensemencé la Terre et donc on est leurs petits enfants. Dans Évolution, le film dont on vient d'entendre l'extrait, donc un film parfois drôle mais en tout cas toujours vulgaire, c'est une météorite qui tombe dans le désert américain et elle contient des cellules en vie. Et puis va se développer toute une vie, donc des végétaux, des animaux, donc. Un peu notre histoire, notre évolution, mais en accéléré.
On sent que t'as souffert hein, pendant ces deux jours, on sent que ça n'a pas été facile.
J'ai du mal à m'en remettre. Mais... En tout cas, surtout, celles qui m'ont intéressé, mais je pense que c'est les plus significatives, c'est les méchantes comètes, c'est celles qui amènent l'apocalypse, c'est les comètes des films catastrophes. Et je crois que c'est normal que les films catastrophes aiment les comètes, parce que c'est vraiment l'aboutissement du film catastrophe. J'en ai déjà un peu parlé la dernière fois avec Le Jour d'après, parce que là, il n'y a rien à faire. Effectivement, c'est comme dans Le Jour d'après, quand une comète va nous tomber dessus, il n'y a rien à faire. Alors, ils essayent effectivement d'envoyer des missiles, mais ça ne marche jamais. Les seuls trucs qui, des fois, fonctionnent, c'est le sacrifice humain. Dans Armageddon, à la fin, il y en a un qui sacrifie, bon, il arrive à sauver l'humanité.
Bon, encore en vrai, ça marcherait pas vraiment, ça.
Ah non.
Peut même en sacrifier deux.
Non, mais en tout cas, c'est tout ce que voilà. C'est bon, souvent cette idée de sacrifice. Effectivement, on en égorge deux trois et les autres sont pour l'exemple. Moi, c'est des astronautes, c'est pas de bol. C'est le cas aussi dans un livre d'ailleurs, parce que je vais pas parler que de films, d'Arthur Clarke qui s'appelle Le Marteau de Dieu. Voilà. Donc il y a rien à faire, mais il y a non plus rien à dire parce que c'est la faute à personne. Il n'y a pas d'explication à donner, il n'y a pas de coupable. Ça change un peu de d'autres films catastrophes comme Titanic ou La Tour Infernale, où là c'est un peu l'ambition humaine qui est mise en cause parce qu'il a voulu construire trop grand, trop haut, trop rapide, et donc on paye ça. Mais là il y a même pas ça dans ces comètes, on y est vraiment pour rien, sauf si bien sûr on se réfère à la Bible, et là je sors ma Bible.
Je comprends que t'aies souffert à ce point.
Je vais vous lire un peu de la Bible. Moi je trouve pas tellement que finalement on retrouve l'apocalypse biblique dans ce genre de film, mais en tout cas sur l'aspect comète, c'est vrai qu'on retrouve des éléments dans l'apocalypse selon Saint Jean, un tout petit. Les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Déjà l'image, hein, fallait y penser.
En tout cas, c'était pas long, c'est bien.
Non. Je vais pas vous lire tout le Nouveau Testament.
Non, mais je t'en prie.
Mais d'ailleurs, une parenthèse, souvent, on se réfère à l'apocalypse biblique, justement, mais il faut savoir qu'il y en a eu avant, qui ont utilisé les comètes dans leur apocalypse, notamment un petit mythe grec. Donc c'est Phaéton, c'est le fils du soleil, et un jour, il emprunte le char de son père, il va à fond dans la galaxie, et il loupe un virage, et le char va s'écraser sur la Terre, et ça fait comme l'effet d'une comète, il y a des raz-de-marée, il y a des explosions partout. Donc c'est la première comète, c'était un char... conduit par un jeune alcoolique.
Vous apprenez des choses, Hervé Cottin ?
Plein de choses.
Oui.
Cette émission est pleine de surprises.
Ne retenez rien.
Tout est vrai. En tout cas, là où se retrouve souvent le message dans ces films, par exemple dans Deep Impact, c'est après l'apocalypse, justement. Or là aussi, on pourrait se référer à la Bible. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne piste. Dans la Bible, ça purge, quoi. Hein, c'est comme une bonne guerre. Ça élimine les impuretés humaines. Et après, on peut reconstruire sur des bases saines. Je ne crois pas que ça soit ça. Par exemple, à la fin de Deep Impact, on voit le président des États-Unis qui fait un discours sur le parvis de la Maison-Blanche, complètement ravagé, avec deux grues qui recommencent à construire. Je crois que c'est surtout que les États-Unis se voient comme une nation immortelle et indestructible, et que même si on détruit toute leur ville, il suffit qu'il reste deux Américains, que ce soit une fille et un garçon, et ils pourront tout reconstruire aussi bien qu'ils l'ont fait. Juste pour finir sur la crédibilité, moi j'ai trouvé globalement, c'est pas les films de science-fiction où on dit le plus de bêtises, peut-être aussi parce qu'ils disent pas grand-chose. J'ai trouvé assez crédible, dans Deep Impact, le truc le moins crédible, c'est que le président justement des États-Unis est joué par un noir. Et je pense que ça arrivera peut-être après la comète.
There goes Mac the knife.
Oh, the shark has a pretty teeth, dear.
And he shows them pearly white.
Just a jackknife has Mackie, dear.
And he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear.
Scarlet billows start to spread.
Fancy gloves, though, where's McKeith, dear?
So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body who's in life.
Someone sneaking around the corner. Is that someone, Mack the Knife?
Yeah, from a tugboat by the river bubble. A cement bag drooping down. The cement's just for the weight, yeah. Bet you Mack he's back in town.
Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And McKeith spends like a sailor. Did our boy do something rash?
Look at here, Suki Tadri.
Jenny Diver.
I said Lottie Lanier.
So with Lucy Brown.
Oh, the line falls on the right, dear.
Now that Mack is back in town.
Lot Lenya 22, l'opéra de Katsu. Sur
non, 22, c'est le numéro de la chanson sur le CD.
Ah, ça n'a c'est bien de me le dire.
C'est pas la symphonie numéro 22.
Ah oui.
Mais avec Louis Armstrong, d'après un extrait de la pièce de Brecht.
L'opéra.
De Katsu, du même
nom. De Katsu, très bien. Et si on fait un petit bilan de l'ensemble des musiques qu'on a écoutées sur cette émission, en début de d'émission, c'était Miossec. Alors, je dis pas le nom.
Numéro 9.
Si je dis Miossec 9, en quarantaine. Et ensuite, on a eu un petit extrait, Comet, également.
Oui.
Ensuite, deuxième musique de l'émission, c'était Mano Solo, Moi j'y crois. Voilà, très bien. Notre invité dans le plein des sciences, c'est Hervé Cottin, qui nous parle de Comet depuis tout à l'heure. Il y a une question qu'on s'est posée en début d'émission, c'est sur les origines de la vie. Certains prétendent que la vie est arrivée, enfin, en même temps, c'est décalé le problème, est arrivée par une comète. C'est une comète qui aurait amené les premières formes de vie sur Terre. Alors, ça explique pas comment la vie se serait formée, mais en tout cas, ça explique comment elle serait apparue sur Terre. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie?
Alors cette théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie, qui dit effectivement que la vie serait universelle et apportée, toute cuite, comme c'est une expression qu'on peut employer, toute cuite sur la Terre et sur les autres planètes. Jusqu'à présent, mon avis, c'est que cette hypothèse n'a pour l'instant aucune base scientifique. Il y a certains arguments qui ont été avancés par certains scientifiques, depuis bien des années, mais à chaque fois sont des arguments partiels et qu'on peut facilement réfuter. Et comme vous venez de le dire, de toute façon, ça ferait que déplacer le problème, c'est-à-dire expliquer l'apparition de la vie sur la Terre en disant elle vient d'ailleurs. Moi, mon questionnement, c'est comment est-ce que la vie est apparue. Alors si on me dit elle vient d'ailleurs, j'ai envie d'aller chercher ailleurs, et comment est-ce qu'elle est apparue ailleurs. Donc ça répond pas à ma question. L'intérêt des comètes, c'est d'apporter. On sait, ça par contre je vous l'ai dit, il y a des molécules qu'on observe. On sait que c'est un environnement très riche en molécules organiques qui synthétisent tout simplement par de la chimie qui peut se passer entre ces molécules dans les glaces. Si en laboratoire on essaie de reproduire la chimie qui se passe sur les comètes, on dépose à 10 degrés Kelvin, donc environ moins 260 degrés centigrades, on dépose de l'eau, du monoxyde de carbone, de l'ammoniac, du méthanol, on envoie des photons assez énergétiques, des particules énergétiques. on simule donc ce qui se passe dans les glaces dans l'espace, et quand on réchauffe, on se retrouve avec un tas de molécules organiques extrêmement complexes, même il y en a tellement qu'on a du mal à les analyser. Donc on pense que sur des comètes, il y a énormément de molécules extrêmement intéressantes. Et ces molécules, une fois qu'on les met dans de l'eau liquide, on arrive à atteindre des degrés de complexité encore plus importants. C'est-à-dire que si on prend le résidu qu'on simule dans les laboratoires, et donc qu'on pense être celui qui est sur les comètes, si on le met dans de l'eau liquide, on obtient par exemple des acides aminés. Et donc après, on peut extrapoler, acides aminés, ça forme les protéines. Les protéines, c'est un des éléments clés du vivant tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Donc c'est un cheminement, les comètes, on observe des molécules dans l'atmosphère des comètes. On simule la chimie qui se passe sur le noyau. Donc rien ne nous laisse penser qu'il y a la vie sur les comètes. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des molécules super intéressantes. Il n'y a pas de liquide sur les comètes, et on pense que pour que la vie apparaisse, il faut de l'eau liquide.
Mais ces molécules super intéressantes, on n'aurait pas pu les obtenir sur Terre.
Ah bah ça, c'est une question extrêmement intéressante. Au début des années 50, un scientifique américain qui s'appelle Stanley Miller a fait une expérience à laquelle il a donné son nom. Il a simulé l'atmosphère primitive terrestre. Alors il s'est dit, bon, il a regardé les planètes géantes, Jupiter, on commence à avoir des données sur leur composition. Il s'est dit, ces planètes, leur atmosphère n'a pas trop évolué. Donc dans mon réacteur, dans mon réacteur dans lequel je vais faire mon expérience, je vais mettre de l'hydrogène, de l'ammoniac, de l'eau, j'en oublie un, du méthane. Voilà. Et il a fait des décharges électriques pour simuler des éclairs qu'il y avait dans l'atmosphère primitive. Il a fait barboter ça dans de l'eau à l'état liquide. Et là, à nouveau, ça donne des acides aminés. Le problème, c'est que ce type de composition d'atmosphère, on pense de plus en plus que c'était pas du tout l'atmosphère primitive terrestre. Et on pense à l'heure actuelle que c'était probablement majoritairement du dioxyde de carbone et de l'azote. Et si on fait ce même type de simulation, on fait des décharges, on fait barboter dans de l'eau, on n'a strictement rien.
D'accord, donc avec la perception qu'on a actuellement de ce qu'aurait été l'atmosphère à l'époque de l'apparition de la vie, ces conditions-là permettent pas d'obtenir les briques du vivant, les conditions des comètes permettent de fabriquer ces briques.
Oui, il faut de l'eau liquide, il faut de la matière organique. La matière organique, on l'a difficilement sur la Terre. Par contre, il y a de l'eau liquide, ça on en est sûr. Sur les comètes, il y a de la matière organique, il n'y a pas d'eau liquide. Par contre, les comètes, ça se balade. Alors, il y a le côté impact, destruction de la vie, mais tant que la vie n'est pas apparue, c'est pas un gros problème. Et donc, c'est sans doute les comètes, et en partie les météorites, enfin tout ça c'est un peu lié, il y a aussi des molécules organiques là-dessus, qui ont pu apporter ces briques prébiotiques.
Alors, dans cette histoire, il reste une grande inconnue, parce que même si on admet que c'est les comètes qui ont amené ces briques élémentaires du vivant, il y a quand même, entre les briques élémentaires du vivant et le premier organisme vivant, même le plus simple qui soit, pour que ça s'organise, pour former un organisme, faut vraiment, enfin, c'est comme mettre une voiture en pièces détachées dans un garage, mettre un grand ventilo et espérer en soufflant dessus que ça s'organise en voiture, quoi.
Il y avait le grand garagiste.
Oui, voilà. Et mais, c'est fini avec la Bible, hein. Ça t'a vraiment perturbé, Jérémy.
Non, parce que à la limite, on met les pièces détachées, elles vont suivre une seule loi, la gravité. Donc elles vont rester au sol. Là, les molécules, elles sont dans un environnement liquide, elles vont suivre elles vont faire de la chimie. Donc il va y avoir certaines affinités chimiques, on va faire que telle molécule va réagir plutôt avec une autre. Et donc on parle depuis les années 1920 de la théorie de l'évolution chimique. C'est-à-dire que naturellement, les lois de la chimie, qui font que dans telles conditions, si on a telle molécule, elles vont s'associer de telle manière. Donc ces lois de la chimie vont conduire inévitablement. Alors on n'a qu'une seule preuve, hein, pour l'instant, la Terre, donc on ne peut pas dire inévitablement, mais on pourrait conduire inévitablement à l'apparition de la vie. Et donc c'est cette jonction entre la chimie, donc de ces briques. Donc moi, en tant que chimiste, je prends des petites molécules, j'essaie de les associer pour avoir des choses les plus grosses possibles. Mm-hmm. Tout ça dans des conditions entre guillemets naturelles. Donc naturelles, ça peut être l'environnement spatial, l'environnement de la Terre primitive, mais voilà. Mais sans apporter plus que ce qu'on pense qu'il y avait. Mm-hmm. Et de l'autre côté, il y a les biologistes qui prennent un organisme vivant, qui vont essayer de le dépiauter, le simplifier au maximum. Et on essaye de faire la jonction. Donc pour l'instant, ce que je vous ai évoqué, la production d'acides aminés, donc on arrive à les associer, faire des petites protéines. Les biologistes essayent de réfléchir aussi à comment simplifier le système vivant. On n'est pas arrivé à la jonction. On espère y arriver un jour. La jonction, ça
on serait... en est loin entre l'organisme le plus simple qu'ont réussi à obtenir les biologistes et vous, je sais pas, l'édifice le plus complexe moléculaire que vous ayez réussi. Il y a encore
La jonction, une jonction, ça pourrait être la molécule d'ARN.
Ouais.
Et on a... pourquoi je dis ça? Puisque une des définitions de la vie, alors on pourrait parler des heures sur la définition de la vie, c'est de dire que ça serait une structure qui est capable de faire par elle-même des copies. Et de temps en temps, elle se plante. Il y a des erreurs. Et donc, ces erreurs, c'est génial parce que ça permet l'évolution. On a tous en tête l'évolution darwinienne, avec par mutation, un organisme qui va être favorisé ou défavorisé. À ce moment-là, il disparaît. S'il est favorisé, il va proliférer. Bah, du même, on peut extrapoler ça à la chimie, une molécule qui permettrait, qui créerait des copies d'elle-même et avec la faculté d'évoluer. Et donc la molécule d'ARN, qui a ses propriétés telles qu'on la connaît, elle est constituée les lettres de l'alphabet génétique, base purique et pyrimidique. Ça, on comprend, on arrive à les synthétiser à partir de molécules très simples comme HCN dans de l'eau liquide. On arrive à avoir l'adénine, par exemple, la lettre A de l'alphabet génétique. Donc ça, on comprend à peu près. Le R, le ribose, on arrive à faire des tas de sucres. Alors pourquoi le ribose? Parce que quand on mélange à partir justement du formaldéhyde, d'une molécule HCHO, donc très simple, on l'observe dans les comètes, on met ça dans de l'eau, des solutions de formaldéhyde, ça va former une multitude de sucres, un tout petit peu, vraiment une toute petite quantité de ribose. Pourquoi est-ce qu'on a du ribose dans l'ARN? Mais en tout cas, on sait le synthétiser dans des conditions prébiotiques. Après, il y a un pont de phosphate, ça c'est assez courant. Donc tout ça, on arrive à le faire en conditions prébiotiques. Maintenant, on n'arrive pas à trouver dans quelles conditions ça pourrait s'associer. Pourquoi c'est le ribose? Alors peut-être que c'était autre chose avant le ribose, mais
d'accord, enfin, vous êtes à ce stade-là de mécano avec les molécules, voilà. et vous tâtonnez en ce moment. J'aimerais qu'on dise quelques mots avec Séverine de l'état d'avancement des différentes missions qui vont explorer ces comètes, qui permettront peut-être d'en connaître davantage. Séverine ?
Oui. déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, l'étude des comètes, elle a commencé assez tard d'un point de vue spatial, si on regarde, parce que, enfin, apparemment, ce qui a suscité vraiment l'intérêt des scientifiques et la définition des premières missions, c'est le passage de la comète de Halley à la proximité de la Terre, donc c'était en 86, donc si c'est je ça. Me souviens bien. Et donc, je crois que c'est à cette occasion-là qu'on l'a déjà observé avec la sonde européenne Giotto, qui a apporté pas mal de résultats. Donc ça, je crois que c'était une mission européenne et c'était une des premières grosses missions finalement dans l'exploration spatiale et qui a apporté pas mal de...
C'est la première fois d'ailleurs qu'on a eu une image d'un noyau de comète. Jusqu'à l'heure actuelle, on en a vu trois. Donc on a le noyau de la comète de Halley et puis peut-être que vous allez en reparler après. Les dernières missions nous ont donné ces dernières années deux nouveaux noyaux de comète. Mais pour l'instant, des images vraiment de noyaux, on n'en a que trois, puisque quand elle est proche du Soleil, on ne peut pas l'observer à cause de son atmosphère. Donc il faut vraiment aller sur place.
Alors une autre mission, effectivement, qui a, si j'ai bien compris, observé un noyau, et qui a d'ailleurs, on a renvoyé une image assez étonnante, c'est la mission Stardust, qui a survolé la comète... WILD 2, un truc comme ça, en janvier dernier, qui a collecté des centaines de milliers de particules grâce à des collecteurs. Alors, des collecteurs. Donc, on espère qu'on va les recevoir, parce que si j'ai bien compris, ça doit retomber sous parachute, un peu comme la mission Genesis qui s'est un peu plantée il y a quelques mois. Voilà. Ouais. Donc, on espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Donc, le retour sur Terre là, des collecteurs sont attendus en 2006. Et apparemment, ce que les scientifiques ont remarqué, c'est que sur les images de très bonne résolution qu'on a pu avoir, les reliefs étaient très escarpés, très variés, alors qu'on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus lisse due à l'échauffement justement irrégulier du soleil, par le soleil.
Ouais. Oui, c'est à chaque fois qu'on observe une comète, on a des surprises. Au début, on avait l'image de boule de neige sale, donc c'est blanc. Quand on a pris une photo de la comète de Halley, c'est l'un des corps les plus sombres du système solaire. Mmh. Et en fait, on pense, bah oui, s'il y avait de la glace autour au début, de toute façon, c'est la première à être vaporisée, donc ce qui est vaporisé à l'heure actuelle, c'est ce qui est en dessous, et donc protégé par une croûte sombre. Et les images de la comète WILD 2 ont été extrêmement étonnantes parce qu'on a vu effectivement plein de cratères. Alors, est-ce que ça peut être des impacts? À l'heure actuelle, on pense plutôt que ce sont des phénomènes internes, justement du fait du dégazage à l'intérieur du noyau, ça peut entraîner des effondrements. Puisque la forme des cratères ne correspond pas vraiment à des cratères d'impact, mais plutôt des cratères liés à... En fait, on a une poche de gaz qui explose en dessous et puis ce qui est au-dessus s'affaisse.
D'accord. Ce que je te propose, Séverine, c'est de nous tenir informés de ces missions tout au long de l'année dans le plein des sciences. On a le temps d'écouter la petite interview que Jérémy a été faire d'une...
Oui, de Danielle Pourteau, qui est adjointe au maire de Paris chargée des universités, parce que la mairie de Paris organise pendant la fête de la science, donc c'est mercredi prochain, le 13 à 14h, c'est gratuit et c'est à l'auditorium de l'Hôtel de Ville. Ils organisent donc un colloque sur la mixité sociale dans les études supérieures, et j'ai commencé par lui demander si c'était la suite logique du colloque de l'année dernière, parce qu'il traitait de la mixité masculin-féminin.
À la base de ces deux colloques, il y a deux réflexions, on va dire. Une réflexion générale sur le peu d'étudiants qui se dirigent vers les études scientifiques de manière générale en France, et donc la faiblesse que ça représente par rapport à d'autres grands pays dans la compétition internationale. Et deuxième réflexion, c'est le fait qu'effectivement, quand on regarde précisément le recrutement aussi bien des grandes écoles scientifiques que des universités scientifiques, on se rend compte que malheureusement, la base sociologique n'a pas changé depuis un siècle. Alors, donc l'année dernière, on s'était intéressé au gisement que représentent les filles pour recruter de nouveaux étudiants pour les filières scientifiques. La France est extraordinairement, là encore, en retard, et il y a une énorme différence, surtout dans la poursuite des carrières, entre les filles et les garçons. Mmh. Et cette année, on a décidé de s'intéresser à cet aspect de la mixité sociale, comment attirer des enfants des milieux, on va dire, défavorisés, vers les études scientifiques, que ce soit universitaire ou grande école.
On retrouve une réponse identique en ce qui concerne la mixité sociale ou la mixité sexuelle, c'est la discrimination positive. Alors, je ne sais pas si vous pouvez donner votre avis.
Alors, en fait, moi, j'adore pas le terme de discrimination positive. Je pense qu'il vaut mieux parler d'action positive pour favoriser un égal accès. Mmh. L'année dernière, on s'était rendu compte qu'il y a tout un tas de dispositions à prendre. D'abord, la sensibilisation, aussi bien des parents que des jeunes. Par ailleurs, on s'était aussi rendu compte que une fois que les femmes avaient accédé...